Hier, en la solennité de notre Père Saint-Augustin, nous avions la joie de célébrer ce jubilé avec nos confrères de la vie canoniale. Et aujourd'hui, c'est donc Mgr Hugues-Paul Zivois, supérieur général de la congrégation de Saint-Victor, congrégation qui est présente sur 3 continents, qui va présider notre Eucharistie. Et nous avons aussi la joie d'avoir aussi parmi nous le révérend Père Richard Donc, supérieur général de la congrégation de la vie commune, congrégation canoniale, avec des membres de la congrégation, ainsi que sœur Martina qui est dans l'assemblée. Merci et nous comptons bien sûr sur votre prière pour notre confédération, les membres de nos congrégations.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Heureux de célébrer le Seigneur en ce jour qui lui est consacré. Heureux de rendre grâce pour tous ses dons, notamment le don de la vie consacrée, de la vie canoniale, le don du charisme de cette famille religieuse ici. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Et au début de l'Eucharistie, nous voulons aussi nous reconnaître pécheurs, reconnaître que nous manquons de foi, que nous manquons d'espérance, que notre charité n'est pas assez vive et entière. En silence, reconnaissons-nous pécheurs, implorons le pardon du Dieu vivant.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. »
Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus.
Chers confrères, chères sœurs, chers frères et sœurs, la parole du Seigneur aujourd'hui est assez propre à nous offrir une instruction, une réflexion dont nous avons peut-être plus besoin que nous le croyons. Il s'agit de remettre l'ensemble de notre vie de foi, de la pratique de notre religion, dans le bon ordre, dans sa bonne finalité juste et lumineuse. Parce que dans notre vie de foi, dans notre pratique religieuse, il se trouve bien des tentations à l'intérieur même de sa compréhension, de sa pratique, et que ces tentations sont d'autant plus difficiles à mesurer, à repérer, à corriger en nous, qu'elle touche à ce que nous avons de plus sacré, de plus essentiel dans chacune de nos vies. Depuis l'Ancien Testament, depuis que Dieu a convoqué, formé son peuple, il l'a entraîné, éduqué à se laisser conduire par lui, à se laisser former par lui. C'est une lente et profonde éducation du Seigneur sur nous, et c'est déjà quelque chose que nous avons à accepter dans la foi, même si nous sommes adultes et avancés en âge, expérimentés et compétents dans bien des matières, de nous laisser conduire, former, éduquer encore jusqu'à la fin. Dieu donne à son peuple des décrets, des ordonnances, des commandements que nous avons à mettre en pratique. Et toujours aujourd'hui, nous avons bien des choses à mettre en pratique, concrètes, chaque jour, nous le savons bien. Mais ici se présente déjà une tentation que Moïse rend présente à la conscience du peuple de Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlevez rien. Ne rien ajouter, ne rien enlever. Faire exactement, ni plus, ni moins, ce que le Seigneur, par l'intermédiaire de son Église, nous demande. En réalité, c'est une tentation constante de l'esprit humain. On peut considérer que tout va mal et que donc il faut en faire plus de choses, en rajouter. Et c'est une tentation présente du temps de Jésus chez les docteurs de la loi de rajouter des commandements aux commandements et des commandements aux commandements des commandements et des commentaires et des prescriptions nouvelles. À la fin, c'est proprement sans fin. Mais nous pouvons être tentés de nous dire « ça ne va pas, il faut en faire plus ». Comme si c'était la pratique des commandements qui nous sauvait. Ne rien ajouter. Et il y a la tentation inverse, en enlever. Dans ce que l'Église me dit, dans ce que le Seigneur me demande, il y a des choses... Je ne suis pas bien certain que ça soit utile. Et moi, je trouve que je ne le comprends pas, je ne le situe pas. La tentation d'en faire moins. Oh, mais ça, c'est bon pour les autres. C'est la vie des saints. Je n'en suis pas là. On peut se former, se trouver toutes sortes d'excuses qui ont en général une certaine logique humaine, une certaine logique dans notre raison, pour en faire moins. Ne pas ajouter, ne rien enlever. Nous le savons aussi, la foi que nous recevons comme un don de Dieu qui nous transforme intérieurement, n'est pas une série d'idées sur Dieu. Elle est une vie concrète, changée, transformée. Et comme le dit le Seigneur à son peuple, en entrant dans la pratique des décrets, des ordonnances qu'il donne, le peuple de Dieu entre dans une vie nouvelle et reçoit en héritage un pays nouveau. C'est toute notre vie qui est engagée et qui se transforme petit à petit. Si la foi reste une série d'idées, d'idéaux, alors elle n'est pas rentrée vraiment en nous, elle n'est pas en nous une vie nouvelle. Et c'est la deuxième tentation à laquelle le Seigneur répond avec une grande force, en nous ramenant, en ramenant ses auditeurs à l'écoute profonde de la parole de Dieu, à la question de différents rites pratiqués. Jésus répond par le prophète Isaïe, en dénonçant l'hypocrisie de ceux qui l'interrogent, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » C'est la deuxième tentation de notre vie de foi. De ne pas mettre dans le bon rapport la pratique extérieure d'un certain nombre de choses à faire concrètement, réellement, et ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En réalité, les deux choses sont nécessaires, mais il faut les mettre dans le bon ordre. Ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous, n'est pas d'abord que nous fassions ceci ou cela. Ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, n'est pas moins que notre cœur et la totalité de notre personne. Comme disait notre père saint Augustin, « Celui qui t'a fait tout entier t'exige, te demande tout entier. » Et ce peut être une tentation assez grande. « Écoute, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon cœur, je ne sais pas. Repasse une autre fois, je n'en suis pas là. » Mais alors la pratique de la vie de foi perd totalement tout son sens. Dieu n'a pas besoin que nous fassions des choses pour lui. Il est Dieu. Ce que Dieu veut, c'est entrer dans une alliance d'amour où il se donne lui-même à nous et nous nous donnons à lui en retour. Ce qu'il attend de nous, c'est le don de notre vie, le don de notre cœur. Mais alors, dans cette tentation, il y a une sous-tentation. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne tout. Pour les pratiques, je verrai une autre fois. Nous comprenons bien qu'il faut mettre ces choses en rapport. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, mais notre cœur s'exprime, se réalise, grandit dans l'amour, dans la foi, à travers des actes concrets. Nous ne sommes pas des esprits purs, nous sommes des esprits incarnés. Notre corps et la matière qui nous entoure nous sont offerts pour que nous puissions exprimer extérieurement ce qu'il y a dans notre cœur et ainsi le mettre en pratique, et le mettant en pratique, le faire grandir. Que serait, par exemple, que serions-nous, nous, religieux, si on disait au Seigneur, « Seigneur, je te prie de tout mon cœur, je t'offre tout, mais ce matin, je reste au lit, je n'irai pas à l'office. » Que seraient des époux qui se disent tout leur amour, mais qui ne font rien de concret l'un pour l'autre. Donc, il nous faut mettre dans le bon ordre la pratique est la vie profonde de notre cœur, les moyens et la fin. La fin, c'est de nous donner dans l'amour à Dieu, de vivre de lui, avec lui, pour lui. Les moyens, c'est tout ce qui nous est donné dans notre vie concrète, dans notre vocation, dans nos différents états de vie, dans les événements qui surviennent, tout cela. La providence divine le veut ou bien le permet pour que notre amour grandisse, pour que la profondeur du don dans notre cœur grandisse à travers les actes et par les actes que nous avons à vivre. Ce qui est en question, finalement, nous le comprenons bien, n'est pas tellement de pratiquer ceci ou cela, encore qu'il faille le faire de manière juste et vraie et nous est donnée, mais à travers cette pratique concrète, c'est quelque chose qui touche au mystère même du sens de notre personne, de notre vie et de la vie du monde. Ce qui est en question, finalement, ce n'est pas seulement notre forme de vie ici-bas. La foi n'est pas un remède à nos malheurs. Elle n'est pas la solution pour améliorer le monde en tout point immédiatement. Tout cela, ce serait des formes d'instrumentalisation et de réduction du mystère de la foi. Ce qui est en question, c'est le mystère même de Dieu et de notre salut. Et voilà la troisième tentation, le grand combat qui est en jeu finalement dans notre vie de foi. Est-ce que nous voulons nous faire nos propres maîtres, y compris en matière religieuse, ou est-ce que nous comprenons que Dieu nous propose une alliance où il s'agit de nous donner en nous laissant conduire entièrement par lui, en renonçant à nous-mêmes pour entrer dans sa vie à lui. Saint Jacques, dans ce très beau passage de sa lettre, a des paroles merveilleuses qui doivent nous encourager. Les dons les meilleurs descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Saint Jacques se moque, je pense, gentiment un peu de nous, parce que dans notre vie de foi, nous sommes sujets, nous, aux mouvements périodiques et aux éclipses. La constance n'est pas le plus fort. Mais Saint Jacques nous révèle ce qui est en jeu du mystère même de Dieu en nous. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. À travers le don de notre cœur et la pratique des commandements de Dieu, nous sommes engendrés par Dieu lui-même, au moyen de sa parole, qui est son Verbe fait chair, le Christ Jésus, pour être les prémices, le commencement du royaume, non seulement pour nous, mais pour toutes les créatures, pour tout l'univers créé. Et voilà le combat, accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Il y a en chacun de nous, frères et sœurs, un combat qui peut comporter une certaine violence à cause de nos résistances, de notre orgueil, de nos péchés, pour ne pas dire un oui plein et entier à Dieu dans la douceur. Et il y a ce combat qui consiste à réaliser que ce n'est pas nous qui nous sauvons par quoi que ce soit, y compris de religieux. C'est lui, et lui seul, qui vient nous sauver, c'est-à-dire nous introduire dans la vie véritable. Ce qui est attendu de nous, c'est une écoute humble, obéissante, qui renonce à nos plans, à nos projets pour entrer dans ce que Dieu nous propose. Et cela est bien concret. Mettez la parole, poursuit Saint Jacques, en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Et puisque Dieu est amour et qu'il nous propose une alliance d'amour avec lui, si nous ne vivons pas dans l'amour du fond de notre cœur et dans notre pratique concrète, nous n'y sommes pas. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, c'est-à-dire qui met en œuvre la vertu de religion, qui met en œuvre la foi, pure, non déformée et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Autrement dit, c'est d'aimer dans notre cœur et en acte, et de se garder sans tache au milieu du monde, de ne pas suivre toutes les déformations du monde. Trois tentations. Si nous n'y voyons pas toujours bien clair, contemplons le modèle merveilleux que Dieu nous donne en la Vierge Marie. Elle n'a rien ajouté et rien enlevé. Elle a mis en pratique ce que le Seigneur lui demandait, mais de tout son cœur, comme venant de son cœur, et pour faire grandir l'adhésion à Dieu et au Christ dans son cœur. Elle s'est laissée engendrer par Dieu. Son cœur immaculé n'est pas pour elle source de fierté ou d'orgueil. Il est source de disponibilité humble, totale à Dieu, et de se laisser conduire, élevé dans son amour. Amen.